Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Profession philosophe. Mais comment devient-on philosophe? Est-ce une vocation? Est-ce un métier? Comment naissent les idées et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Bernard-Henri Lévy.
Bernard-Henri Lévy, on me dit que vous êtes philosophe. Ah, est-ce que vous avez votre carte de philosophe?
Il y a la marionnette. Il y a non plus la gueule que je me fais, mais celle qu'ils me font, qu'ils m'ont faite, à partir de ce que j'ai tenté de faire. Il y a la façon dont les autres perçoivent mon masque savant, et il y a le fait que c'est toujours, hélas, leur perception, donc la mécanique, qui gagne. Puisque de beaux efforts de l'écrivain pour se bâtir un beau personnage, il ne reste que cette lie, ce déchet, ce précipité de gueule qui s'appelle une caricature. Des poses, des grimaces, c'est l'histoire de tous les écrivains. C'est la mienne, quand je me laisse cadrer, découper, photographier comme un guignol. Mais la vérité, je la connais, je déteste ce guignol, ce cabot, ce robot, cet imprécateur pontinisé par les télés, emmagasiné dans la presse People, ce philosophe sur papier glacé dont je ne ferai à aucun prix mon ami et que je ne lirai pas s'il n'était moi. Ce moi qui est moi sans l'être, qui me ressemble et que je déteste. Je ne le trouve pas exactement odieux, mais pathétique. Je l'appelle BHL. Et il est, j'en suis sûr, le pire ennemi de mes livres. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous ?
Comme philosophe. Et comme philosophe qui a apparemment, j'avais oublié ce texte que vous venez de lire.
Ce sont des lignes de vous que je viens de lire.
Oui, ce sont des lignes de moi dans Comédie. Et un philosophe qui a peut-être plus de talent que la plupart de ses détracteurs. Parce que je trouve honnêtement ce procès de BHL assez bien tourné.
Donc vous, le meilleur détracteur de vous-même, c'est vous-même, c'est ça que vous dites ?
Mais bien sûr, mais évidemment, mais depuis toujours. S'ils avaient eu le dixième de ma verve, je ne serais pas là aujourd'hui.
Mais c'est peut-être ça qu'on vous reproche, justement.
Ça doit faire partie de ce qu'on reproche, absolument. Mais en tout cas, philosophe, certainement, oui.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, philosophe ? C'est un métier ?
Non, ça n'est évidemment pas un métier, c'est un point de vue sur les choses. C'est une forme de pensée détachée par rapport au réel, par rapport au monde et par rapport aux choses. Je le dirais ainsi, il y en a d'autres. L'art est une autre forme de pensée détachée sur le réel, une autre excroissance du réel. La science, la mathématique est une autre forme de pensée détachée. La philosophie en est une et c'est celle en effet qui probablement me convient.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
Oui. Je me souviens de mon premier désir de philosophie et de ma première rencontre. Mon premier désir, c'est justement à partir de la mathématique. J'ai commencé, lorsque j'étais jeune lycéen, en classe terminale, etc., j'ai commencé par faire des mathématiques. Et c'est à travers ça, à travers ce que mon futur maître Jean Toussaint de Santy appellera les idéalités mathématiques, à partir en particulier dans mon souvenir d'un livre du doyen Zamansky sur les mathématiques, que j'ai compris de quelle utilité dans la vie pouvait être la philosophie. Ça, c'est mon premier désir, ma première approche. Puis après, ma première rencontre véritable, elle s'est faite, comme toujours, par des professeurs, et notamment l'un d'entre eux, auquel il se trouve que j'ai rendu hommage il y a quelques jours dans la règle du jeu, qui s'appelait Jean Deprin, qui était mon professeur de Cagnes, qui n'a pas laissé un immense souvenir dans la chronique de la vie philosophique, mais qui était un philosophe grand, spécialiste du XVIIIe siècle, de la volupté et du plaisir, je crois, ou du sentiment de plaisir au XVIIIe. Voilà, ce philosophe-là, auquel me liait par ailleurs une histoire personnelle et familiale complexe que j'ai désintriquée dans ce petit texte, La règle du jeu, il est sans doute celui qui a synthétisé ma rencontre avec les textes, oui.
Vous passez l'agrégation de philosophie, vous la réussissez, est-ce que vous enseignez ? Après avoir...
J'enseigne un peu, oui, ouais. J'enseigne un peu. J'enseigne à l'université de Strasbourg et j'enseigne l'épistémologie à l'université Louis Pasteur pendant 2 ou 3 ans. À l'époque, j'avais fait un mémoire de maîtrise sur la pensée de Georges Canguilhem, l'historien des sciences bien connu, l'auteur de la connaissance de la vie, de l'histoire de la formation du concept de réflexe, des études d'histoire et philosophie des sciences. Et j'ai enseigné donc l'histoire des sciences, l'histoire de la fabrication des connaissances, l'histoire de la mécanique de la pensée. Voilà. Et puis, j'ai aussi un tout petit peu enseigné pendant 2 années à l'école normale, dont j'avais été moi-même élève. Et j'ai fait pendant 2 ans, tout ça est très ancien, un cours qui s'appelait Politique de Nietzsche. Donc voilà, de Canguilhem, Bachelard et autres épistémologues jusqu'à Nietzsche, c'était un peu le premier spectre de mes intérêts.
Et pourquoi avoir arrêté d'enseigner ?
Parce que je me suis fâché avec l'université. Parce que j'ai... Pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis fâché avec Paris, d'abord. C'est-à-dire, très, très, très jeune, je suis parti ailleurs, au Bangladesh et ailleurs. Et que tout ça me paraissait beaucoup plus désirable et passionnant et une bien meilleure épreuve pour la pensée que l'enfermement dans l'académisme. Puis deuxièmement, j'ai assez vite écrit mon premier livre, en 1977, qui m'a fâché, je crois, avec l'essentiel, sinon la totalité, du personnel académique et du corps universitaire. Donc il n'était même plus question, en eût sais-je eu le désir, et d'ailleurs je l'avais sans doute, parce que j'ai aimé enseigner, j'ai aimé cette idée à la fois de transmettre et de fabriquer en transmettant, parce que c'est ça, un professeur de philosophie, c'est quelqu'un qui, en même temps qu'il transmet, forge quelque chose, usine des concepts, et j'aimais cela, j'aimais cet exercice-là, et je l'aurais sans doute, j'aurais pu le poursuivre davantage. Mais à partir de 77, je crois qu'il n'en était plus question, j'ai été blacklisté de d'à peu près toutes les universités françaises.
Alors que s'est-il passé en 77? Voici un extrait de l'émission Apostrophe du 27 mai 1977. La question du jour est la suivante. Les nouveaux philosophes sont-ils de droite ou de gauche? C'est votre première télé en compagnie d'André Glucksmann. Que voici, on va entendre André Glucksmann et puis le journaliste qui présente ce qui est en train d'arriver et puis ensuite un court extrait de votre voix. C'était donc en 1977.
Je ne vise aucun intellectuel nommément en disant crétin théorique. Je dis que je peux l'être comme d'autres peuvent l'être.
C'est la première fois qu'on entend ça.
Je n'ai jamais...
Un beau matin, la France étonnée a découvert qu'il existait une nouvelle philosophie. Elle regroupe quelques jeunes philosophes ayant en commun leur désillusion politique et un refus du marxisme. Une double page dans Le Monde, une émission d'Apostrophe, une polémique dans Le Nouvel Observateur ont suffi pour que le phénomène prenne une ampleur considérable.
Je dis qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les intellectuels, c'est de penser ce qui s'est passé dans ce siècle.
Mais très vite, la polémique sur la forme a pris le pas sur le fond. Et de toutes parts, on a reproché aux nouveaux philosophes d'avoir su habilement utiliser les méthodes du marketing pour lancer le produit Nouvelle Philosophie, de la même manière que l'on lancerait n'importe quel produit.
Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas à la fois réussir une opération de marketing, comme ils le disent, moi j'emploie jamais ces termes-là, et en même temps réussir à penser, à oser penser. Et pour moi, disjoindre ces deux choses-là, dire que d'un côté il y a le marketing, que d'un autre côté il y a l'édition, que d'un côté il y a la pensée, que d'un autre côté il y a de l'audience, je dis que ce type de démarche est une démarche méprisable. Qu'elle témoigne premièrement d'un mépris invraisemblable de ce qu'on appelle les médias, comme si le simple fait de passer dans les médias, à la télévision ou dans les journaux était une infamie, et comme si le fait même du média suffisait à contaminer le penseur qui y passe. Et ça témoigne d'un colossal mépris à l'égard de l'opinion, comme si l'opinion n'était capable d'apprécier la philosophie que dans la clandestinité, etc. Et comme si une philosophie accédant à une large diffusion devenait automatiquement une mauvaise philosophie.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe. Aujourd'hui, pour terminer cette saison en compagnie de Bernard-Henri Lévy, qu'on vient d'entendre dans cette archive de 77. Vous avez à peu près la même voix, hein, Bernard-Henri Lévy, finalement. Certains moments, on diffuse la voix des invités des années avant, on ne les reconnaît pas. Là, pour le coup, vous parlez de la même façon et vous défendez déjà la rencontre entre la pensée, la philosophie et les médias.
Bah oui.
C'est votre façon de vous défendre. Alors, racontez-nous quand même ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, c'est une levée de bouclier assez invraisemblable et je crois que assez rare dans son intensité et dans sa violence. Ce qui s'est passé, c'est un vrai sang-froid de mon camarade André Glucksmann et peut-être de moi-même qui avons résisté à tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est surtout, c'est pas c'est l'histoire du média. Ça, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme la littérature. Il y a tellement de très grands écrivains absolument incontestables qui sont passés par les médias, qui ont fabriqué des journaux, qui ont collaboré à des journaux. Enfin, cette polémique était absurde. Mais ce qui s'est produit avec ce qu'on appelait les nouveaux philosophes, c'est autre chose. C'était un geste de pensée, je crois, fort, vrai, qui a labouré très profondément la terre philosophique. Voilà, c'est ça l'essentiel.
Donc c'est vous qui inventez le terme de nouveau philosophe, qui implique qui ?
Oui, je crois que c'est moi qui invente la formule, d'ailleurs par hasard. Pour être tout à fait honnête, si on raconte les choses dans leur vérité, oui. J'avais composé un dossier pour un hebdomadaire qui n'existe plus, qui s'appelait Les Nouvelles Littéraires. Et puis au dernier moment, c'était Philippe Tesson qui en était le directeur, et il fallait lui trouver un titre. Et vraiment, j'hésitais. Il y avait la relève. Je trouvais que ça faisait vraiment droitier, absurde. Il y avait la fronde. Je trouvais que ça faisait bête et vieillot. Et je me revois dans la cabine téléphonique d'un restaurant du quartier latin appelant à 11h du soir, quasiment sur les rotatives, Philippe Tesson, pour lui dire, écoutez, on va faire simple. Prenons le titre le plus banal qui soit, celui dont on peut être sûr qu'il n'aura aucun écho, qu'il ne fera pas souche, qu'on n'en parlera plus la semaine prochaine, au moins on sera tranquille. Appelons ça les nouveaux philosophes.
Bah quand même, les nouveaux philosophes, c'est ambitieux. C'était pas la meilleure façon de passer pour discrètement.
Ça me semblait être, franchement, les nouveaux philosophes, à chaque époque de la philosophie, il y a des philosophes qui ont dit qu'ils étaient nouveaux. Qu'est-ce que c'est d'autre que la philosophie, sinon une tentative d'impulser de la nouveauté dans les discours antérieurs? C'est le geste philosophique par excellence. Même quand un philosophe retravaille des textes anciens, même quand il fait dialoguer des textes de diverses époques, l'idée, c'est quand même de faire du neuf. C'est de faire avancer quelque chose, même quand on ne croit pas au progrès. Voilà. Donc pour moi, c'était un titre assez bateau. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que je me suis trompé. Mais à part ça, ce qui était plus important que d'inventer le mot, c'est ce que cela recouvrait.
Oui.
C'est-à-dire, pas seulement le marxisme, là, comme j'entendais dans le commentateur de l'époque, mais cette mise en cause de toutes les philosophies de l'histoire. Voilà, je crois que c'est ça qu'il y avait dans les travaux de quelques-uns que j'avais regroupés dans ma collection ou ailleurs. Il y avait l'idée que il y a les philosophies progressistes de l'histoire qui sont infâmes, il y a les philosophies déclinistes de l'histoire qui sont dégueulasses, il y a les philosophies cycliques de l'histoire qui sont ridicules. Mmh. Et le rapport des hommes à l'histoire concrète, ben, il passe pas par ces grandes machineries et ces grandes algèbres-là. C'était ça, au fond, que disaient les nouveaux philosophes.
Oui, c'est ça, mais plus précisément, c'était quand même une forme de dénonciation de l'alliance entre le parti socialiste et l'espèce de l'union de gauche, avec l'extrême gauche qui prenait trop d'importance à l'époque.
C'était ça à la télévision. Mais les livres, si on se donne la peine de les lire, allaient quand même un tout petit peu plus loin que ça.
Parce que... Enfin, les entretiens, vous voulez dire, qui suivaient dans la revue
ou ce qui est... Oui, l'écume médiatique disait ça. Disait, en effet, en finir avec le marxisme, en finir avec une gauche, une forme de gauche, c'est-à-dire le socialisme, dont je pensais qu'il était mort déjà depuis un certain temps. Mais il y avait derrière tout ça des gestes théoriques, je crois, plus ambitieux, dont cette critique à fond des philosophies de l'histoire, comme d'ailleurs d'autres les avaient un peu faites, mais que je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai découvert beaucoup plus tard, 5 ou 6 ans plus tard, la pensée de Franz Rosenzweig, le maître d'Emmanuel Lévinas, mais qui n'était pas traduit à l'époque, et dont la critique de l'hégélianisme, la critique de des théologies de l'histoire avait déjà anticipé de plusieurs de 60 ans le geste en question. Mais enfin, c'est de ce genre d'affaires qu'il s'agissait à l'époque.
Et donc, que se passe-t-il à ce moment-là? L'année d'après, enfin la même année, en fait, il y a La barbarie à visage humain,
oui,
qui sort, dans lequel là, vous examinez les effets du stalinisme et du fascisme. Vous dites Hitler n'est pas mort à la guerre, sous-entendu qu'il serait encore vivant, et donc que l'esprit du fascisme règne encore. Et là, le basculement pour vous se fait, c'est votre exposition médiatique qui nuit à votre travail ?
Bah, c'est un mélange des deux. L'exposition médiatique, évidemment, aide à mon travail et puis l'empêche aussi. Et c'est dans cette espèce d'étau de mâchoire que moi-même et d'autres nous sommes trouvés pris depuis tout ce temps-là. Voilà, il faut trouver le dosage. Le vrai problème des médias, c'est pas d'aller dans les médias, c'est pas même d'aller simplifier sa pensée dans les médias. Le vrai problème, c'est quand les médias vous dictent votre pensée, son calendrier, son agenda, ses objets de pensée, etc. Moi, toute ma vie, je crois, il m'est arrivé de faire des livres qui obéissaient à une actualité médiatique, naturellement. Mais il m'est arrivé aussi d'en écrire, qui soit totalement décorrélé. Alors après, que j'aille les défendre dans les médias, ça n'a aucune importance.
Mais on ne vous reproche pas d'aller dans les médias. Je pense que la caricature que vous décrivez si bien de vous-même concerne au contraire celui qui va dans les médias et qui ne produit pas de pensée. Un philosophe de pacotille, vont-ils dire, parce que qu'a-t-il d'un philosophe, se contente d'aller parler de lui.
Eh bien, ceux qui me reprochent cela, je leur en veux pas, c'est comme ça, mais ils ne m'ont pas lu. Ils n'ont pas lu récemment l'esprit du judaïsme, ils n'ont pas lu il y a 40 ans le testament de Dieu, ils n'ont pas lu...
Vous avez une philosophie ?
Ah, je crois, oui, bien
sûr. Est-ce que vous arrivez à la décrire ?
Je pourrais la décrire, mais certainement pas dans le calibrage de temps.
Ah, vous avez un petit peu de temps quand même. Est-ce qu'il y a un concept, une idée autour de laquelle s'articule votre travail ?
Il y a en tout cas une rencontre entre la phénoménologie et le structuralisme. Voilà, ça c'est sûrement ça qui est au déclenchement. Moi je suis l'enfant, philosophiquement, de la phénoménologie, de Husserl, même de Sartre, mettons, retour aux choses mêmes, l'idée de s'affronter à la violence et à la colère des choses, et puis le structuralisme, c'est-à-dire cette pensée plus froide, hyper conceptuelle, qui professe qu'un concept n'est jamais fils du réel et qu'il n'en est pas non plus le reflet, mais qu'il est fils d'un autre concept, et ainsi de suite. Donc, première chose que j'ai envie de vous répondre, c'est ça. C'est que ce que j'ai essayé de faire depuis 40 ans, ça se passe au confluent de ces deux courants-là. Le courant phénoménologique et le courant structuraliste. Voilà. Après, une philosophie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des énoncés, bien sûr. Les énoncés, c'est mes quelques livres, beaucoup maintenant. Je crois qu'il y en a quasiment 40. Mais c'est aussi, avant ces énoncés, des intuitions antéprédicatives, voilà, des intuitions fondatrices qui d'ailleurs précèdent l'acte de philosopher. Un philosophe, c'est d'abord des répugnances ou des appétits ou une idiosyncrasie, pour parler en Nietzsche. Voilà. Alors moi, dans mon cas, ces énoncés non verbalisés, ces énoncés antéprédicatifs dont tout le reste a découlé, ils sont quelque part du côté d'un certain rapport à la nature, d'une volonté de ne pas s'inscrire dans le naturalisme, de cette espèce d'instinct profond que j'ai eu très, très vite, que le pire des totalitarismes, c'est le totalitarisme de l'être ou du naturel, ou alors après, si on descend dans la politique du national, ou si on descend encore un peu dans la psychologie du natif. Voilà, j'ai construit ma philosophie contre tout cela.
L'être, le figé, vous dire, ce qui ne bouge pas, ce qui
est... Le natal, le national, le naturel. Voilà, c'est contre ces trois notions-là que je crois... depuis la première phrase de La barbarie visage humain jusqu'à la dernière phrase de L'Empire et les Cinq Croix, c'est contre ça que j'ai essayé de réfléchir. Mais en tout cas, après, voilà, on peut juger une pensée de telle ou telle manière, mais réduire ce que j'ai tenté de faire aux médias, ben voilà, c'est juste de parti pris, c'est faux, c'est pas exact. J'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup travaillé dans la philosophie, depuis toujours.
En philosophie et aussi, disons, en politique et sur le terrain. Car s'il y a une chose qui vous caractérise, Bernard-Henri Lévy, c'est que vous vous déplacez, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous allez sur place. Je pense aux nombreuses actions politiques dont vous avez été à l'initiative, on va y venir dans un instant, mais aussi cette volonté de pouvoir ancrer dans quelque chose, peut-être, de réel, ce qui, sans ça, ne resterait qu'abstrait. Et alors, est-ce votre premier pas en politique ? Vous allez me le dire, je ne sais pas. En tout cas, cette personne a compté pour vous.
la philosophie, elle commence avec saint Thomas, elle continue avec Descartes, elle se développe un peu avec Spinoza, Leibniz, elle touche à Kant, on apprend le nom d'Hegel, et puis ça bifurque. On ne connaîtra rien du marxisme, pratiquement rien du freudisme. Par contre, on s'attardera sur Nietzsche et Schopenhauer. Et dans la mesure où certains modernes sont étudiés, ce sera Maritain et surtout Bergson.
Celui qui parle de philosophie et celui qui parle de lui à la troisième personne, c'est François Mitterrand, dont vous avez été le conseiller, Bernard-Henri Lévy.
Oui, j'ai été le conseiller alors, dans une vie vraiment préhistorique. Là,
entre 71 et 76, à peu
entre
près,
60, oui, 72, 73 et 76, oui, absolument. Oui. J'ai tardé à reconnaître sa voix.
Ben oui, parce que là, pour le coup, c'est une voix aussi
Qui date. Oui. Une voix datée, oui. Mais,
Quel rôle a-t-il joué pour vous, François Mitterrand?
Honnêtement, pas très important. Je ne crois pas. J'ai eu un très grand respect pour lui, une vraie admiration, une vraie tendresse même avant qu'il ne soit président de la République. Mais j'étais, je ne sais pas, c'est comme Romain Gary, il est aux antipodes de ce que j'étais. Il faut vous imaginer, vu profession philosophe, ce que pouvait être un jeune homme de 20 ans, nourri à la pensée althussère, nourri par le foucaldisme, qui avait appris à lire dans la prose complexe et savante de Jacques Lacan. Et on était loin de Maritain et de je ne sais plus qui citait Mitterrand. C'était vraiment des planètes différentes. Donc j'étais suffisamment fantaisiste et suffisamment étranger à moi-même pour me passionner, bien sûr, pour une conversation avec François Mitterrand. J'ai été honoré et passionné, mais c'était pas mon monde, et je suis pas sûr qu'il m'ait appris, que ces interlocutions-là m'aient appris grand-chose. J'ai beaucoup plus appris à l'époque, dans ces années 70, de Jean-Claude Milner ou du jeune Béni Lévy que de François Mitterrand.
Mais la politique vous a appris quelque chose?
Pas cette politique-là. Moi, j'ai passé mon temps à utiliser les politiques et à m'en méfier. Et en tout cas, à ne pas cheminer vraiment avec eux. Hein, moi,
est-ce que c'est vous quand même qui essayez de convaincre François Mitterrand d'intervenir en 92 à Sarajevo?
Je rapporte à François Mitterrand un message bouleversant de son homologue bosniaque, comme j'ai rapporté à Nicolas Sarkozy un message bouleversant des insurgés libyens, comme j'ai amené chez François Hollande des militaires kurdes au palais Élysée. La question n'est pas là. Je me suis servi dans les différentes causes que j'ai embrassées au fil de ma vie. Je me suis servi, bien sûr, des politiques, pas de manière cynique, au contraire, de manière
pragmatique.
De manière idéaliste, parce que je voulais apporter le meilleur à ces femmes et à ces hommes dont je portais l'étendard, et parce que je pensais aussi que c'était bon pour mon pays, pour la France. Quand je vais voir Mitterrand pour lui dire vous pouvez pas laisser Sarajevo devenir un nouveau Varsovie, je pensais aussi à la France et à son rôle. Mais ce rapport-là aux politiques n'a jamais signifié, je crois, enfin que j'ai été embrigadé, ni que j'ai cheminé avec tel ou tel, ni que j'ai même essayé de juger leurs raisons, etc.
Vous vous dites de gauche ou de droite?
Non, je me dis de gauche, bien sûr. Enfin, bien sûr. Je dis bien sûr parce que je l'ai tellement.
Vous votez à gauche.
Si souvent dit, oui, bien sûr, je vote à gauche, mais mes généalogies intérieures sont à gauche. Et puis, si ces mots ont encore un sens, c'est vrai que je suis résolument dans le camp de ceux que révolte l'injustice et qui essaient de marier l'exigence de liberté et l'impératif d'égalité, ou l'inverse. Bon, mais la politique au sens de la gestion de la cité, où qu'elle soit, ça ne m'a jamais concerné directement.
Alors on va vous entendre, un montage proposé par Thomas Beau, d'abord à propos de la Bosnie en 92, de l'Ukraine en Ukraine en 2014, pendant la révolution de février, en Libye en 2011 et enfin dans votre engagement contre le régime d'Assad en Syrie.
J'ai honte de l'Europe aujourd'hui. J'ai honte de la façon dont l'Europe a laissé tomber Sarajevo. Il est évident qu'en 48 heures, si l'Europe le voulait, les artilleurs qui canonnent au-dessus de nous sur les collines disparaîtraient. L'Europe n'en a pas eu le courage. Donc j'ai honte pour l'Europe.
Croyez-vous que la conscience de le monde et la conscience de l'Europe peuvent être tranquilles maintenant?
Non. Non, je crois que nous sommes tous coupables. Coupables, pas loin.
Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas ça? Et les Européens auraient peur?
А європейці мусять боятися?
Ви vous êtes dressé devant Poutine?
Ви повстали проти Путіна?
Et nous nous coucherions devant Poutine?
А ми ляжемо перед ним?
Un sentiment de libération dans cette foule à Tripoli et à Benghazi, un vrai sentiment de fierté pour l'Europe et pour la France. C'est la première fois que des pays européens tendent la main à un peuple d'un pays arabo-musulman en révolte contre une dictature.
Moi, ce qui me dévaste, c'est plus encore que ce qui se passe en Libye, c'est ce qui se passe en Syrie, le chaos syrien. Les millions de personnes arrachées à leurs terres et cherchant un asile précaire au Liban, en Jordanie et en Europe. Et tout ça, c'est quoi? C'est le fruit de la non-intervention.
Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'origine de vos déplacements, de votre engagement sur le terrain, Bernard-Henri Lévy? Vous parliez d'idéal à l'instant. Quel est cet idéal?
Nous parlions au début de cette conversation du progressisme, des conceptions providentialistes de l'histoire et de Hegel. Ben, je dirais que derrière toutes ces interventions-là, il y a mon refus du hegelianisme.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, il y a une phrase de Hegel que chacun de vos éditeurs connaît, ou beaucoup connaissent, qui est « la chouette de Minerve se lève à la nuit tombée ». Autrement dit, le rôle du philosophe, c'est de venir, quand tout est fini, quand la messe est dite, faire ses ultimes commentaires. C'est ça que ça veut dire, hein. La chouette de Minerve se lève à la nuit tombée, ça veut dire on attend que les champs de bataille soient apaisés, on attend que la tragédie ait déployé toutes ses péripéties, et puis on vient tirer les leçons. Moi, j'ai toujours voulu faire l'inverse. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que le rôle d'un philosophe, c'était pas d'attendre la nuit tombée, c'était pas d'attendre la paix des cimetières, c'était d'aller au milieu de la bataille, quand les choses sont encore indécidables, pour témoigner en Bosnie, pour tenir une parole en Ukraine, pour produire ou tenter de produire des actes en Libye avec succès, en Syrie avec échec. Voilà. Donc c'est ça le fond de l'affaire. Si on parle philosophie, il y a dans la tradition juive, il y a une autre image que la chouette de Minerve qui est la biche de l'aurore, qui elle vient au début de l'histoire. Elle vient au milieu du tumulte. Elle vient mêler sa voix à la voix des belligérants, de ceux qui luttent pour la justice ou de ceux qui luttent pour faire taire la voix de ceux-là, et ainsi de suite. Donc, philosophiquement, ce qui m'a animé, c'est ça. C'est la révolte intérieure devant tant de philosophes qui ont attendu que la messe soit dite pour prendre le risque d'intervenir. Bon, après, il y a d'autres choses, évidemment. Il y a, par exemple, cette passion qui ne m'a jamais quitté, que j'ai hérité de mes maîtres, que j'ai hérité de mon père, que j'ai hérité de la génération avant la mienne qui a fait la résistance, ou dans le cas de mon père, la fin de la guerre d'Espagne. Et qui est la haine du fascisme, qui est la haine de la brutalité abjecte des oppresseurs, voilà. Donc les deux ensemble, la haine de l'injustice et l'idée que la philosophie ne saurait se réduire à dire la messe quand c'est fini, les deux ensemble font qu'en effet, je me suis retrouvé, oui, à Kiev sur la place Maïdan, à Benghazi.
Donc c'est au nom d'idées en fait que vous agissez, parce que vous pouvez pas ne pas réfléchir aux conséquences de ces actions. Ça peut pas simplement être les idées qui conduisent votre action, il y a aussi, mais quelle sera la conséquence d'une action que je vais conduire au nom d'une idée? Le droit d'ingérence a des conséquences. Une personne qui n'appartient pas à un pays va décider d'intervenir, dans le pire des cas, ou le meilleur, selon le point de vue où on se situe, bombarder ce pays en espérant que l'avenir sera mieux, ce qui n'est pas toujours le cas.
La seule manière d'éviter ce danger-là, c'est la chouette de Minerve. C'est d'attendre que tout soit fini.
Vous dites vaut mieux se tromper que de ne rien faire.
Il vaut mieux se tromper en faisant très attention, en pensant à chaque instant au risque de ce que vous êtes en train d'accomplir, que de ne rien faire, naturellement. Et d'ailleurs, lorsque je regarde en arrière, dans tout ce à quoi j'ai pu me mêler depuis maintenant presque 50 ans, je ne me suis pas souvent trompé. Parce que...
Madoka, vous diront que depuis la chute de Kadhafi, les choses ne vont pas forcément mieux.
Écoutez, j'ai souvent eu cette discussion, on peut l'avoir ici si vous voulez, mais je ne crois pas. Je crois que les choses vont beaucoup mieux qu'avant la chute de Kadhafi. Mais à supposer même que ce point-là soit objet de débat, je ne me suis pas trompé au Bangladesh, je ne me suis pas trompé en Bosnie. Enfin, bref, on n'est pas là pour faire... Je veux vous dire simplement que, bien sûr, qu'il faut prendre le risque de se tromper. Ou alors, on ne fait rien. Ou alors, on laisse les humains s'entretuer.
Oui, mais c'est difficile de trouver une légitimation d'une action dans un autre pays que le sien. Pourquoi la France a beaucoup de problèmes. Au nom de quoi agissons-nous dans un pays qui n'est pas le nôtre?
Au nom de l'universel. Au nom
de postule l'universel, oui, les droits de l'homme.
Au nom de l'idée que ce qui borne le droit, c'est pas des frontières, c'est des principes. Tout est là. Si on pense que la langue du droit, c'est la langue des frontières, alors en effet, on ne bouge pas et on se résigne à l'idée qu'à chaque peuple, qu'à chaque nation, qu'à chaque région de l'humanité corresponde un certain droit. Si on croit, comme je le crois, mais ça c'est l'antéprédicatif dont nous parlions tout à l'heure.
Antéprédicatif, c'est avant le jugement.
Avant le raisonnement. Avant la dialectique, avant l'épreuve. Rien ne prouve, en effet, que l'universel existe. Rien ne prouve qu'il faille traiter les hommes de la même manière sous toute latitude. Je pense juste qu'un monde où on pense cela est un monde moins mauvais qu'un monde où on ne le pense pas. Voilà. Donc j'ai pris le parti. Ça fait partie de mes intuitions originaires. Que, en effet, les hommes méritent d'être traités de la même façon. J'ai pris le parti de la fraternité.
Pourquoi à l'international, pourquoi pas en France?
Mais la fraternité, ça veut dire non seulement en France, ce qui va de soi, mais...
On vous voit moins engagé en France qu'à l'étranger.
Mais non, on me voit, ça c'est... Je lis parfois cela, mais c'est inexact. On me voit engagé partout, lorsque j'ai l'impression que ma voix peut avoir une minuscule utilité, que je la fais entendre. Donc la vraie question, c'est pas d'intervenir en France. Tout le monde intervient en France. J'interviens toutes les semaines. Mais bien sûr que si. En tout cas, les intellectuels qui opinent, le font. Et en tout cas, moi j'ai une chronique hebdomadaire dans Le Point, je le fais. En revanche, la vraie question, c'est de quel droit est-ce que vous permettez d'intervenir au Burundi?
Dans un pays qui ne vous a rien demandé.
Dans un pays qui ne vous a rien demandé, au nom d'une exigence qui est celle d'un universel et d'une humanité abstraite. Voilà, c'est ça la vraie question. Eh bien, moi je pense, parce que je crois à la fraternité, parce que je crois à l'internationalisme, parce que je crois qu'il n'y a qu'un genre humain et pas plusieurs, parce que je ne veux pas revenir au temps d'avant l'ASCAS et d'avant le débat sur l'époque où on disait qu'il y avait plusieurs genèses de l'humanité. Je ne veux pas revenir à ce temps-là. Donc pour toutes ces raisons-là, je crois qu'en effet... Mon émotion, où j'ai dû m'exercer très tôt, peut-être, je ne sais pas, à ce que mon émotion face au calvaire d'un Rwandais ne soit pas moindre que mon émotion face à un calvaire de mon voisin. Et je déteste philosophiquement la phrase de tous les anti-droits de l'homiste, dont le premier d'ailleurs était Jean-Marie Le Pen, c'est lui qui est la fameuse phrase sur mon voisin, je serai toujours plus proche de mes enfants que de mes voisins que de mes lointains, et ainsi de suite. Je déteste ça. Voilà. Je crois à l'humanité abstraite.
Abstraite, mais vous pensez bien que lorsqu'on parle d'abstraction, alors d'aucuns vous rétorqueront encore une fois que cette abstraction implique une absence de prise en compte du point de vue d'autrui. En fait, il y a une certaine, je ne dis pas que c'est la vôtre, mais il y a une certaine utilisation de l'universalisme qui peut être tout aussi totalisante. J'ai raison, puisque je postule l'universel, c'est moi qui ai raison, donc autrui se trompe forcément, d'ailleurs autrui, peu importe, il ne compte pas puisque c'est l'universel.
Eh bien, alors c'est peut-être là qu'il faut conjoindre à ce principe d'universalité un autre principe qui est le principe d'autruification. Pour moi, prendre le point de vue de l'universel, c'est prendre le parti d'autrui. C'est prendre le parti de l'autre absolu qui est dénié, qui est renvoyé à la nuit des hommes infâmes, comme disait l'un de mes maîtres. Et c'est justement tenter par un second geste de lui rendre une singularité, d'essayer de rendre sensible son visage. Par exemple, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'allais sur le terrain. C'est pas la question du terrain. Le terrain, je m'en fiche. En revanche, ce qui m'importe, c'est face à une tragédie dont je pense qu'elle doit m'importer principiellement, c'est rendre des visages à chacune de ces victimes. Quand je fais un reportage, c'est ça que je fais. Quand je vais faire un reportage sur les guerres oubliées, j'avais fait cela pour le journal Le Monde il y a maintenant 15 ans, toute une série de 5 reportages sur des situations dont le journal Le Monde estimait qu'elles n'avaient pas été suffisamment traitées par la presse française. Eh bien, quel était l'enjeu de mes reportages, réussi ou pas, enfin, c'est ça que j'avais dans la tête. C'était justement de resingulariser, de rendre une chair, de rendre un corps à une plainte abstraite. Donc c'est les deux à la fois. Bien sûr que l'universalisme sans chair, ça peut aller vers ce que vous dites. Et c'est sûr que l'attention à la pure singularité, elle peut se noyer dans quelque chose qui n'a pas suffisamment de portée. Il faut les deux à la fois.
D'autant que la pureté peut être dangereuse, comme vous le savez.
Et ça s'appelle, pour reprendre là encore un mot de Michel Foucault, le journalisme transcendantal. Michel Foucault, qui était un grand philosophe, un grand théoricien, un homme d'archives, il avait aussi cette idée que là où la pensée était au maximum de son intensité, de son incandescence et de sa portée, c'est quand elle se mettait au journalisme. Mmh. Et il a fait des reportages, d'ailleurs pour le Corriere della Sera, où il a pris des risques et où il s'est trompé, par parenthèse. C'était à propos de la révolution iranienne en 1979. Mais il y avait là un type de rapport à la parole et un type de rapport au réel qui me semble être l'une des manières pour un philosophe d'exercer son magistère.
Donc philosophe et journaliste, ou philosophe et terrain.
Oui.
C'est vous qui parlez de romanquête, c'est ça?
Oui, oui. Journalisme transcendantal, c'est-à-dire au nom de cette universalité dont nous parlions tout à l'heure, rendre un nom, rendre un visage, resituer singulièrement dans le monde des humains que l'on assassine en tas, dont on fait des amas. Voilà, c'est les deux gestes. À la fois un geste de singularité, d'insistance sur la singularité et de tenue de l'universel.
Mais justement, c'est ça qui est difficile à penser. Comment est-ce que le travail du philosophe peut être tout aussi nécessaire et utile que l'interventionnisme dont vous faites preuve par ailleurs, finalement? Pourquoi mettre en place des concepts? Et je pense, j'ai fait rapidement référence à la pureté dangereuse, hein, vous parlez de ce concept de volonté de pureté, qui serait le fantasme d'une pureté éthique nationale ou religieuse qui justifierait bien des guerres et des massacres, par exemple au Kosovo, hein, en 98. Vous mettez en place ce concept-là, vous le forgez. Ça peut paraître dérisoire par rapport à l'action militaire que vous appelez de vos voeux par ailleurs. Est-ce que les deux sont aussi utiles?
Non, parce que par exemple...
Journalisme transcendantal, certes, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie?
Fabriquer le concept de volonté de pureté. Ce que j'ai fait en effet dans un livre qui date de septembre 1994, qui appelait « Pureté dangereuse ». Ça permettait de penser ensemble, c'est-à-dire de penser tout court, parce que penser, ça veut dire penser ensemble. Ça permettait de penser ensemble ce qui venait de se passer quelques semaines plus tôt au Rwanda. J'ai été parmi ceux qui s'en sont émus assez vite. Ce qui était en train de se passer en Bosnie, ce qui était en train de se passer avec la montée de l'intégrisme musulman et de l'islamisme, donc de l'islamisme radical en Algérie. Ça permettait de penser au moins ces trois choses-là ensemble. Donc c'est à ça que ça sert un concept. Inventer un concept, si tant est que la volonté de pureté en soit un. Mais je le pense, en effet. Inventer un concept, c'est pas juste ajouter un ornement à l'histoire éternelle de la philosophie. C'est fabriquer une machine qui permette de mieux appréhender le réel. Et mieux appréhender le réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire parvenir à différencier, rapprocher, singulariser, et ainsi de suite. Donc, le concept volonté-pureté, il était capital pour moi au moment où, en effet, je me tenais aux côtés des Bosniaques, au moment où je voulais faire entendre mon horreur et ma stupeur devant ce qu'on venait de laisser faire au Rwanda, et au moment où je sentais venir le grand danger des 20 années qui allaient venir, et qui était l'islamisme radical. Donc, penser tout ça, et ne pas les penser, ces trois choses-là, ne pas les penser comme des accidents de l'histoire, ne pas les penser comme des humeurs du temps, mais les penser comme des lourdes couler de sens ou de boue ou d'ignominie, ça supposait de passer par un concept. En tout cas pour moi, on peut peut-être le faire autrement. Mais moi, ça a supposé de passer par
un... Non, mais c'est ça qui est intéressant. Pourquoi le concept ? Est-ce que pour vous, c'est une mission ? C'est une vocation ? C'est comme ça que vous vous exprimez ? D'ailleurs, vous êtes par ailleurs, vous écrivez des pièces de théâtre, des films, donc vous avez d'autres moyens d'expression.
Mais c'est pareil.
C'est pareil ?
Oui, parce que je suis aussi écrivain. Et pour un écrivain, en tout cas, quel que soit l'objet, quel que soit le véhicule, c'est le même souffle, c'est la même voix, c'est la même électricité qui passe ou qui ne passe pas. Mais le genre, je crois vraiment, importe peu. Il y a des genres où on est meilleur que d'autres, naturellement. Mmh. Mais et je crois que pour un philosophe aussi, ça, on le sait depuis Gilles Deleuze, depuis d'autres, quelqu'un avec qui je suis en désaccord à peu près surtout aujourd'hui, Alain Badiou. Je crois ne contredirait pas cela. On peut faire de la philosophie à travers une pièce de théâtre. On peut faire de la philosophie
lui-même. Oui, il a écrit des pièces de théâtre.
Il a écrit des pièces de théâtre, Ahmed le Subtil et d'autres. On peut faire de la philosophie dans une tribune du journal Le Monde ou Libération, et on peut faire de la philosophie à travers un traité sur Mallarmé. Donc tout ça, ce sont des véhicules. C'est un bricolage un peu lourd, mais pour essayer d'apprivoiser, de contourner, d'arraisonner, de penser un peu ce réel qui va toujours plus vite que nous et qui a toujours une longueur d'avance sur nous. Et moi, c'est cette longueur d'avance-là qui me rend fou et que je voudrais réduire dans...
C'est-à-dire,
c'est-à-dire
le réel a une longueur d'avance sur vous, c'est ça qui vous fait écrire, vous
oui,
voulez le rattraper.
Sûr. Oui, le rattraper, bien sûr, oui. En tout cas, cette version du réel, ce nom du réel qui s'appelle l'histoire, je n'aime pas l'idée que l'histoire aille plus vite que les hommes. Je n'aime pas l'idée que les hommes, que les humains soient débordés par l'histoire et par son charivari et par son charroi d'horreur. J'aime pas cette idée-là. J'aime l'idée que des artistes, que des écrivains et que des philosophes soit contemporain de cette histoire et essaye, comme disait Walter Benjamin, d'appuyer sur le frein du train fou de l'histoire. Oui,
c'est quand on écrit, on freine.
On freine ou on accélère. Il y a des écrivains et des philosophes qui ont écrit pour accélérer et pour au contraire donner un rythme plus endiablé encore à la sarabande endiablée de l'histoire. Et puis il y en a d'autres, plus mélancoliques, plus pessimistes ou plus lucides, qui pensent que la vraie urgence, elle est bien souvent de freiner, oui, de refroidir ces passions chauffées à blanc qui sont l'ordinaire de l'humain et dont il est rare qu'elles aillent vers le mieux. Donc oui, il faut freiner, bien sûr, je crois.
Pour comprendre ou par peur de la mort ?
Par peur de la mort des autres, oui. Par peur de la catastrophe.
Pas de la vôtre. Vous ne pensez pas à votre propre mort quand vous écrivez. Il n'y a aucun lien.
J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps dans ma vie d'homme. J'y pense le matin en me rasant, comme diraient les autres. Mais lorsque j'écris des livres, c'est pas à ma mort que je pense. Non, c'est à la... C'est dans le livre auquel vous faisiez allusion, je pensais à la mort des intellectuels algériens égorgés parce qu'ils parlaient français.
Mais quand on écrit autant, on pense forcément à sa postérité, on pense aussi aux traces qu'on laissera après sa mort. C'est quand même une manière de conjurer la fin de son existence.
Ça c'est autre chose. Ça, je pense en effet qu'on écrit principalement pour des lecteurs qui ne sont pas encore là. Ça, je le crois vraiment. Et je crois aussi que... Un écrivain, c'est quelqu'un qui, même s'il n'ose pas le dire aussi clairement que je vais le dire là, ou même s'il ne l'a pas tout à fait pensé, Il y a un moment, en général, au début de sa carrière, de sa course, où il a une espèce de vision comme ça de à quoi ça devrait ressembler à la fin, et qui emploiera sa vie à faire que ça ressemble à ça. Voilà. Donc, bien sûr que le point de vue de la fin, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écrivains respectables qui n'aient été habités par une espèce comme ça d'une forme de désir téléologique, un désir de la fin, de quel sens tout. Alors évidemment, on est toujours surpris par la fin. Et là, pour le coup, l'histoire va plus vite, bien sûr. Mmh. Et puis on sera, nous sommes tous et nous avons tous été figés dans une espèce de moment qui n'était pas le bon, qui n'était pas le. Enfin, quelques exceptions près. Mais enfin, en général, un écrivain, c'est quelqu'un qui dont le dernier mot n'est jamais celui qu'il avait. Affûté, peaufiné comme un galet lisse et définitif. Bon, voilà, ça c'est bien sûr. Mais penser à ça, penser que avoir en tête l'idée d'un travail qui, au bout du chemin, ressemblera à quelque chose. Oui, ça, bien sûr, que c'est mon cas et que j'y pense.
Voici la question d'un philosophe que vous aimez beaucoup.
Comment peut-on philosopher? Que peut-on faire? Est-ce que j'ai appris une façon de philosophie qui ne serait pas la simple lecture de grands livres et la simple imitation de ce qu'ont fait les autres.
Emmanuel Lévinas qui a pris position pour votre livre, Bernard-Henri Lévy, Le Testament de Dieu, il dit « Je rejoins le livre de Bernard-Henri Lévy, Le Testament de Dieu, livre sombre, livre qui a dit tant de choses remarquables sur la loi, sur la dure loi qui ne nous apporte pas d'emblée, comme le promettent certains jeunes hommes trop facilement optimistes, les joies des aubes naissantes, etc. » En tout cas, il a rendu hommage à votre livre quand il est sorti.
Oui, je m'en souviens et j'étais évidemment très immensément honoré. Mais là, je suis immensément ému de réentendre sa voix et immensément d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non, mais attendez, c'est-à-dire qu'en effet, l'idée de penser à neuf, l'idée de penser à 100% à nouveau frais, l'idée de recommencer dans l'innocence, c'est idiot. Bien sûr qu'on pense à travers des textes, bien sûr qu'on pense dans le commentaire infini et qui, avec un peu de chance, donnera à la fin un peu de quelque chose de plus des textes anciens. C'est comme ça que ça marche, la philosophie. Ça, c'est la leçon de Lévinas. C'est la leçon de quelqu'un dont nous n'avons pas parlé depuis le début de notre conversation, mais qui a beaucoup compté pour moi, auquel je dédiais comédie, qui était Jacques Derrida. Jacques Derrida est un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui a passé son temps à écrire dans les marges des textes des autres, qui a passé son temps à écrire des paperolles, à palimpsestiser, si j'ose dire, les textes des écrivains ou des philosophes qui le hantaient. Hein. Mm. Bon, donc c'est ça la philosophie. Et alors là, s'il y a bien une chose que m'ont apprise mes maîtres, c'est encore une fois que on ne philosophe jamais à partir d'une table rase. On part jamais de zéro. Ou alors, ça donne la mauvaise philosophie, c'est-à-dire la philosophie du sens commun, la philosophie du bon sens et la philosophie du cliché. Voilà. Mais si on veut échapper à ça, ça veut dire qu'on ne peut pas escamoter le dur chemin de la philosophie des autres.
Dans ce cas, il y a peu de différence entre la pratique de la philosophie et l'étude du Talmud, par exemple.
Absolument. Surtout dans les cas que nous avons évoqués là, Lévinas a pensé au croisement de l'étude du Talmud et de l'étude de la philosophie grecque. C'était vraiment le logos et la loi juive. Jacques Derrida, il l'a dit de manière moins nette, mais enfin il l'a dit indirectement à travers ses propres commentaires à lui de l'œuvre de Lévinas. Il mettait en œuvre une logique proprement talmudique. Et donc cette idée d'un grand livre des choses inlassablement réécrit et l'idée qu'il suffit d'une goutte d'encre pour apporter du neuf dans l'histoire de la pensée, ça c'est une vieille idée talmudique, mais c'est aussi une vieille idée philosophique, et c'est comme ça que la philosophie s'est toujours faite, depuis Aristote jusqu'à Spinoza et jusqu'à Fichte ou Schelling. La philosophie, c'est comme ça. C'est ce que mon autre maître Louis Althusser appelait une pratique théorique. Althusser, qui était un philosophe communiste, qui était soucieux du réel de son temps, de la classe ouvrière, du sort des plus pauvres, de l'internationalisme prolétarien, de tout ça, eh bien, il pensait que la pensée sortait de la pensée. Et il pensait que pour réfléchir à tout cela, il n'y avait rien de plus à faire que d'ajouter un codicille à un texte de Marx, oui, ou à une page de Feuerbach.
C'est ce que vous voulez faire aussi ?
Et c'est ce qu'il appelait la pratique théorique. Et il disait que faire un concept, c'était comme un produit usiné. Il y avait une matière première, il y avait des moyens de production, et il y avait un produit fini qui s'appelait le concept. Et que dans ce processus-là, on ne rencontrait jamais le réel. C'était ça la pensée profonde de l'althusserisme. On passait d'un objet théorique à un autre objet théorique par le truchement d'un objet théorique médian. Tout cela servait naturellement à entendre quelque chose et à changer quelque chose dans le réel, mais on ne le rencontrait pas. On ne se cognait pas dessus. C'était la limite du structuralisme. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que moi, ce qui m'a passionné toute ma vie, c'est de conjoindre le structuralisme et la phénoménologie. Mais voilà, c'est ça que disait les maîtres de l'école normale de ce temps-là.
Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, d'être venu nous parler de philosophie ce matin.
Merci.
Votre dernier livre s'appelle « L'Empire et les cinq rois ». Il est publié aux éditions Grasset. On se quitte pour célébrer la fin de l'année, la fin de la grille et le début de l'été. Au nom de l'équipe des Chemins de la philosophie, voici Albano et Romina Power. Felicità.
Per mano andare lontano la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità. Felicità,
felicità, e un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità.
Ne nous remerciez pas, vous aurez la chanson dans la tête. Tout l'été, sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Géraldine, les auditeurs ne tiennent plus. Quel est le dernier livre que vous leur conseillez de lire pour cet été ?
Alors, avant de vous le révéler, Adèle, il faut dire que j'ai reçu beaucoup de suggestions des auditeurs et des auditrices pour cette sélection de livres de philo qui changent la vie. Merci beaucoup à vous. C'est vrai qu'en les lisant, je me disais que j'aurais même dû vous parler d'Aristote, d'Épicure, de Montaigne, de Pascal, de Descartes, de Kant, de Nietzsche et de celui qui revient le plus souvent dans vos propositions, Spinoza et son incontournable éthique. Mais hélas, voilà, j'ai dû faire un choix qui ne tient qu'à moi. Ce sera autant de prochaines émissions que nous pourrons faire l'année prochaine, Adèle. Avant cela, donc, voici La dernière voix et le dernier livre de philo qui change, selon moi, la vie.
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir est le seul livre de ma sélection que je n'ai pas lu durant mes études. Aucun cours, aucun professeur, personne ne m'a conseillé de le lire, je n'y étais pas obligée et je n'ai jamais été évaluée sur ma compréhension de ce texte. J'ai tout simplement eu envie de le lire, car Simone de Beauvoir était pour moi une référence fantomatique, toujours associée à Sartre, mentionnée dans les débats féministes, elle n'était pour moi qu'un nom. Mais plus que ça, son objet d'étude dans le deuxième sexe l'était aussi à mes yeux. À la fin de mes études, quand je l'ai lu, je croyais que les sujets de recherche sérieux, légitimes, c'était, en vrac, l'État, Dieu, la démocratie, la liberté, l'œuvre d'art, la morale et j'en passe. Mais je ne voyais pas en quoi la femme, les femmes, pouvaient être l'enjeu d'une théorie philosophique. Le sexe n'était selon moi qu'un attribut de l'être humain, pas très intéressant conceptuellement, sinon en termes politiques d'égalité des droits. C'est donc bien naturellement que j'ai eu envie d'en savoir plus et que j'ai découvert ceci.
L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. La femme, l'être relatif, écrit Michelet. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi, on l'appelle le sexe, voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe. Donc elle l'est, absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel.
Comment s'est construit ce mythe de la féminité, de l'éternel féminin, de l'humanité faite mâle? C'est tout le propos du deuxième sexe paru en 1949. Biologie, psychanalyse, vie quotidienne, littérature, Simone de Beauvoir décortique tout. De la misogynie logée dans les plus beaux textes littéraires, jusque dans le dégoût qu'une femme peut avoir de ses propres menstruations. De la mère à la femme indépendante, de l'articulation entre égalité et différence aux hommes inquiets pour leur virilité. J'ai été ainsi frappée par la recherche documentaire, la précision et l'exhaustivité de son développement pour rendre compte de cette construction de l'éternel féminin. J'ai eu sous les yeux l'exemple parfait de ce qu'on appelle faire de la recherche en philo, c'est-à-dire de toute cette entreprise de travail, d'interrogation et de déconstruction de textes et de faits qui n'étaient pas interrogés jusque-là. Mais j'ai surtout compris que la philosophie n'était pas dégagée de questions politiques quotidiennes, concrètes, corporelles, et même qu'elles pouvaient se soutenir mutuellement et produire quelque chose de palpable.
Je pense que ce mouvement est utile à beaucoup de titres. D'abord, une des idées du mouvement de libération, c'est que les femmes se rassemblent entre elles, se parlent entre elles, et que ce qui est vécu au foyer souvent, dans l'acrimonie, dans le ressentiment, parce que les femmes au foyer ne sont pas toujours tellement des anges du foyer, tellement douces, et ça parce que justement elles ressentent malgré tout l'injustice qui leur est faite. Eh bien, au lieu de vivre cette injustice dans une récrimination individuelle et stérile, il vaut beaucoup mieux que les femmes se parlent entre elles de leurs problèmes, entre elles et non pas devant ou avec les hommes, et qu'elles essaient de trouver des solutions. Ça leur épargnerait certainement beaucoup d'aigreur et ça leur permettrait de prendre vraiment conscience de leur situation, de réfléchir dessus. Et quand elles auront bien réfléchi, je crois qu'elles auront toute envie de s'unir pour la changer.
Je n'ai rien à ajouter aux mots de Beauvoir.
Eh bien, ce sera donc Simone de Beauvoir qui clôturera cette grille, puisque c'était la dernière émission de l'année pour nous, Géraldine.
Mais on se retrouve fin août, le 26.
Avec plaisir, de l'autre côté de l'été. Que l'occasion me soit donnée donc de remercier chaque membre de l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions en accomplissant un travail phénoménal. Vous les connaissez maintenant de nom en tout cas, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Nicolas Berger à la réalisation, c'est Jean-Frédéric à la prise de son aujourd'hui, Anne Toscane qui nous a bien aidé cette semaine. On se retrouve en effet à la rentrée le 26 août, mais d'ici là, vous avez la chance de vous voir proposer plusieurs rediffusions des Chemins de la Philosophie au cours de l'été. Par exemple, dès lundi, ce lundi, eh bien, vous pourrez écouter la rediffusion d'une série d'émissions autour de la philosophe Simone Veil, une autre Simone, Géraldine, une philosophe sur tous les fronts, c'est ainsi qu'on avait intitulé la semaine. Et vous pouvez évidemment réécouter en ligne et podcaster les émissions de votre choix. Les archives sont gigantesques et vous pouvez remonter dans le temps et vous concocter des séries à écouter cet été sur la plage ou absolument où vous voulez. On se retrouve donc en direct le lundi 26 août. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur des étés sur France Culture.